Răscrucea Europei.
Stavrodromii της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. À peine nommé mi-février, Premier ministre Mario Draghi, l'ex-président de la BCE, la Banque Centrale Européenne, a réussi un premier miracle. La quasi-totalité des partis politiques italiens, le soutien de la gauche à l'extrême droite dans l'histoire politique de l'Italie, c'est du quasi jamais vu. Autre victoire de par son passé élogieux à la BCE, il a remis Rome sur le devant de la scène européenne. Mais Mario Draghi hérite d'un pays épuisé par la pandémie, à l'économie exsangue. Alors pour gagner son deuxième pari, remettre l'économie italienne en ordre de marche, il lui faudra d'abord vaincre la crise sanitaire, ce qui est loin d'être acquis, même si l'on a pour surnom Super Mario. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints dans le studio 21 de RFI, ou par téléphone, pandémie oblige. Bonjour Giuliano D'Ampoli.
Bonjour.
Vous êtes présent dans ce studio 21, vous êtes président du think tank Volta, un think tank plutôt européen, on peut le dire.
Très européen même.
En français et en italien.
Tout à fait.
Et en anglais aussi,
en
peut-être.
Anglais en anglais aussi. Bon.
Évidemment, sur la page de l'émission, les références du site Volta. Votre dernier livre, on ne parle pas directement de l'Italie. Il s'intitule Les ingénieurs du chaos. Il est paru chez Jean-Claude Latette. On parle un peu de tous ces, en français, ces spin doctors qui, en gros, racontent la politique comme un show télévisé.
Oui, en partant quand même un peu de l'Italie comme Silicon Valley du populisme, c'est-à-dire frontières, laboratoires, endroits où se cultivent des nouvelles formes politiques. Et on va peut-être pouvoir en discuter aujourd'hui.
Forcément, un petit mot. On parle notamment du mouvement 5 étoiles, mais pas seulement, dans votre livre, Les ingénieurs du chaos chez Jean-Claude Latesse. Bonjour, buongiorno Anaïs Ginori.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante en France du quotidien La Repubblica. Eric Joseph, buongiorno.
Bonjour.
Vous êtes à Rome, le correspondant du quotidien Libération. Merci d'être en ligne de Rome. Vous êtes aussi le président de l'association Europa Now, là aussi une association très européenne.
Absolument, très européenne.
Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ?
Notamment pour Europa Now, c'est une association qui cherche à incarner en quelque sorte les valeurs de l'Europe, à incarner pourquoi nous sommes ensemble, pourquoi on a fondé l'Union européenne, et notamment en souvenir des tragédies du XXe siècle, de la lutte contre le totalitarisme, et donc de rappeler ça, d'incarner l'Europe de manière à montrer qu'il y a des citoyens qui sont prêts à justement descendre dans la rue, organiser des initiatives pour montrer qu'ils ont un attachement à ces valeurs de l'Europe et que l'objectif c'est d'essayer d'ouvrir une narration et une perspective et un horizon qui pourrait être une république européenne fondée sur l'égalité des citoyens.
Éric Joseph, merci d'être en ligne de Rome. Et puis comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International ce dimanche avec Beniamino Morante. Alors, Éric Joseph, avant de parler de Mario Draghi, quelques mots sur la situation en Italie, où en est la pandémie, où en est le confinement, où qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui n'est pas ouvert, où en est la situation de l'Italie en ce dimanche de Pâques.
Alors, en ce dimanche de Pâques, en fait, ce week-end pascal, eh bien, l'Italie est en quelque sorte à l'arrêt, elle est en zone rouge, donc elle est confinée, et donc les déplacements sont extrêmement réduits. Les citoyens italiens sont invités à rester chez eux et à ne pas se rassembler, parce que la situation sanitaire est encore préoccupante. On a environ entre 400 et 500 morts encore par jour. L'Italie s'approche du seuil de 110 000 victimes depuis le début de la pandémie, et donc c'est encore une situation compliquée. La campagne vaccinale a subi depuis notamment l'arrivée de Mario Draghi une accélération, mais malgré tout on est encore très très loin de l'immunité collective qui pourrait permettre une reprise des activités.
En Italie comme dans le reste de l'Europe d'ailleurs. Alors c'est dans ce contexte que Giuliano D'Ampoli, que Mario Draghi devient Premier ministre, c'était le 13 février, il n'a pas été élu, il a été nommé par le président Sergio Mattarella à la suite d'une crise politique dont les Italiens ont le secret, pandémie ou pas ?
Oui, évidemment, le système politique italien fonctionne de façon assez particulière, c'est-à-dire tant qu'il y a une majorité qui se forme au Parlement, le président de la République n'a presque aucun rôle et le jeu des partis, disons, détermine la survie ou pas des gouvernements. On sait que l'instabilité est plutôt la norme en Italie. Après, quand ce système ne fonctionne plus et n'arrive plus à produire une majorité, il y a la possibilité, en effet, pour le président de la République de sortir de son chapeau une solution de type différente. On parle toujours de technocratie, mais la vérité, c'est que on reste quand même dans la sphère de fonctionnement du système politique italien. Ça s'est déjà produit plusieurs fois. Il n'y a pas que l'exemple de Monti de 2011, il y a aussi par exemple l'exemple de Ciampi au début des années 90. On voit que c'est souvent lié effectivement à des situations extraordinaires et au cours des dernières années à la relation de l'Italie avec l'Europe. Et dans ce cas, la pandémie a évidemment joué. Mais je dirais que le facteur déterminant a été le plan de relance européen. C'est-à-dire, c'est vraiment sur ça que se joue l'arrivée de Draghi aux manettes en Italie.
Et l'avenir de l'Italie, on va bien évidemment revenir longuement sur ce plan de relance de 750 milliards dont l'Italie devrait recevoir environ 209 milliards. Ouais. On arrondit à 209. Alors, Anaïs Ginery, qui est Mario Draghi, qu'on appelle Super Mario, grâce à son passage à la présidente de la Banque Centrale Européenne. Avant tout, c'est un banquier, Mario Draghi. Il a été à la tête de la Banque Centrale Italienne, il a été banquier chez Goldman Sachs. C'est un banquier, c'est pas un homme politique.
Oui, c'est vrai, dans le curriculum, il y a évidemment cette fonction de banquier, mais bon, on peut quand même comprendre que dans cette fonction, il a beaucoup fréquenté la politique, beaucoup fréquenté les politiques. Moi, en travaillant un peu sur les relations entre Mario Draghi et la France et Emmanuel Macron et les anciens présidents français, tous les témoins que j'ai un peu auxquels j'ai demandé comment ils voyaient Mario Draghi, tout le monde me dit attention, c'est pas vraiment un technocrate, c'est quelqu'un qui a beaucoup fréquenté la politique et les politiques de tout niveau et de beaucoup de pays. Il sait parler un peu au même niveau à un président américain ou un président français. Et voilà, il est beaucoup plus au fait de comment on bouge en politique de ce qu'on pourrait penser en le présentant seulement comme un banquier. L'autre chose intéressante, c'est que je reprends ce que disait Giuliano D'Empoli, c'est vrai que l'Italie a déjà connu ce qu'on appelle justement des gouvernements techniques en Italie, des technocrates qui prennent un peu le pouvoir dans des situations de crise et de majorité qui manque. Mais dans son cas, ce qui va vraiment le différencier, vous venez de le dire, c'est que les autres technocrates, premier ministre technocrate, devaient en quelque sorte imposer des sacrifices à l'Italie, aux Italiens, au nom de l'Europe. Lui, du coup, bon, il y a évidemment la pandémie et la crise sanitaire qui n'est pas finie, on va voir quand est-ce qu'elle va se finir, mais du point de vue économique, en tout cas, il va disposer de ces fameux 209 milliards dont vous avez maintenant évoqué, du plan de relance européen, donc il arrive quand même pour dépenser de l'argent de l'Europe et pas pour imposer des sacrifices, en tout cas de ce point de vue. Donc ça je pense que ça va être vraiment quelque chose qui change la donne dans son futur et dans son destin au gouvernement.
Éric Joseph, Mario Draghi a réussi un petit exploit. Quand on connaît l'instabilité des gouvernements italiens et la difficulté à former des majorités, il est soutenu par la quasi-totalité du spectre politique italien, de la gauche à l'extrême droite. Des partis populistes ou europhobes ou à l'extrême droite, comme le Mouvement 5 étoiles ou la Ligue, farouchement eurosceptique ou europhobe, soutiennent le gouvernement de Mario Draghi. Ils y participent. Ils participent à un gouvernement très européen, ce qui, pour qui n'est pas italien et qui ne connaît pas forcément les méandres de la vie politique italienne, c'est un retournement difficile à comprendre. Vous avez une explication claire pour un français ou un francophone, Éric Joseph ?
Alors, effectivement, cette sorte de gouvernement d'union nationale peut apparaître assez surprenant, mais en fait, il faut déjà bien voir que le mouvement 5 étoiles avait déjà effectué une évolution, un changement un petit peu idéologique au cours du dernier gouvernement de Giuseppe Conte, et il s'était complètement recentré. Vous savez, le mouvement 5 étoiles, c'est un mouvement populiste qui est capable de changer assez facilement de position, et il avait donc effectué cette évolution, passant d'un euroscepticisme qui parfois allait jusqu'à une europhobie affirmée, à un soutien très pro-européen. L'exemple le plus flagrant, c'est la position de l'actuel ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, qui est un des responsables du mouvement 5 étoiles, qui avait été un temps soutenir les gilets jaunes en France contre Emmanuel Macron, et qui se retrouve désormais, et déjà il était dans le précédent gouvernement, celui de Giuseppe Conte, ministre des Affaires étrangères, très pro-européen. Et donc on voit qu'il y a une évolution de la part du mouvement 5 étoiles, qui a cette capacité plastique de s'adapter aux situations. En revanche, ce qui est plus surprenant, effectivement, c'est la participation de la Ligue de Matteo Salvini, la Ligue d'extrême droite, qui effectivement a bâti une partie de son succès contre l'Europe. Il y a encore quelques années, Matteo Salvini faisait notamment campagne pour la sortie de l'Italie de la monnaie unique. Alors il faut bien voir que là, dans ce cas, la participation de la Ligue peut s'expliquer notamment par le fait qu'une partie des militants et des responsables de la Ligue considéraient que la situation a radicalement changé, et ce qui a changé, c'est la crise pandémique qui fait que évidemment il y a une crise économique très profonde en Italie, et donc que la priorité n'est plus peut-être au thème contre l'Europe, justement parce que l'Europe va apporte des solutions économiques et financières à l'Italie, et puis la priorité, ce n'est plus l'immigration, et donc en quelque sorte les priorités ont changé en Italie, et ça la Ligue l'a perçu, notamment parce que Matteo Salvini avait suivi un coup d'arrêt en 2019, et donc il a recentré. Et puis il y a une pression aussi de la part de son électorat, et notamment l'électorat du nord de l'Italie, les petits entrepreneurs qui ont besoin de cette relance économique, et qui pensent qu'il faut participer au plan de relance européen, au plan Next Generation EU. Il faut absolument être dans les arcanes du pouvoir pour pouvoir aussi là compter et orienter la destination des fonds européens.
Alors, Julien Napoli, je voudrais revenir un peu avec vous ce que vient de dire Éric Joseph. Les Italiens ont voté en 2018, et le parti qui a gagné les élections, c'était le mouvement 5 étoiles. Et puis il y a eu les élections européennes en Italie, comme ailleurs au sein de l'Union européenne. Et là, c'est la Ligue qui a gagné ces élections, avec à chaque fois 32-33%, enfin en tout cas des victoires assez significatives. Et là, alors je voudrais un peu avoir votre point de vue. Ce mouvement populiste d'un côté, d'extrême droite, europhobe de l'autre, a totalement changé. Ce virage à 180 degrés, cette métamorphose de Matteo Salvini, vous l'expliquez pour les mêmes raisons que vient de nous donner Éric Joseph, ou il y a quelque chose de plus profond, quelque chose d'un peu différent encore?
Non, je pense que les raisons sont celles que dont parlait Éric Joseph, mais il faut bien voir que ce processus n'est pas irréversible. D'ailleurs, sur ce mot même, Matteo Salvini a été interrogé il y a quelques jours par un journaliste qui lui demandait si son adhésion à l'Europe était irréversible. Il a répondu « il n'y a que la mort qui est irréversible ». Et ça donne un peu l'idée du double langage que Salvini, par exemple, est en train d'adopter. On disait en Italie, il y a un temps, un parti de lutte et de gouvernement, dans d'autres contextes. Et c'est un peu ça qu'il va essayer de faire. C'est-à-dire, d'un côté, il est à l'intérieur du gouvernement avec ses ministres, mais d'un autre côté, il n'y est pas lui personnellement. Et surtout, il est toujours prêt à jouer quand même d'autres cartes, disons. raison. Et même la carte anti-européenne, si celle-ci redeviendra porteuse dans le futur. En ce moment, en effet, cette sorte de manne du plan de relance, qui en effet est destinée de façon assez considérable à l'Italie, complètement mis en silence
il faut en être
et même la seule force d'opposition un peu importante qui reste, c'est-à-dire Fratelli Italia de Giorgia Meloni, disons l'évolution de l'ancien parti fasciste italien, cette force-là, qui est une force d'ailleurs ascendante dans la politique italienne, qui a de plus en plus de poids et de support, donc très nationaliste dans son ADN, même celle-là, en cette période, disons, sur le thème européen, elle est beaucoup plus prudente. Et aujourd'hui, les leaders les plus admirés par les Italiens, ce sont numéro un, toujours indétrônable, Angela Merkel, et numéro deux, Ursula von der Leyen. C'est la première fois qu'une présidente de la Commission européenne rentre dans ce type de classement. Donc, on voit bien justement qu'il y a l'atmosphère est complètement transformée, mais ça peut rebasculer assez rapidement si les Italiens ne verront pas les effets concrets de ce plan de relance. Il y a d'autres éléments de crise qui vont, vous en parliez au début, qui vont ressortir, et puis ces thèmes qui aujourd'hui ne sont plus au centre du débat, comme l'immigration et d'autres, vont revenir dans le débat à partir d'un certain moment. Donc la partie vraiment n'est pas jouée du tout.
Elle est générée donc un soutien unanime pour l'instant, mais fragile, à Mario Draghi.
Oui, absolument. Bon, on parle d'un gouvernement qui a vraiment quelques semaines, donc c'est tout le futur est à écrire. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme disait Giuliano Dell'Empoli, je pense que c'est vraiment l'occasion, en tout cas ça pourrait être l'occasion pour réconcilier en quelque sorte les Italiens avec l'Europe. Vous savez que les Italiens étaient traditionnellement, l'Italie est un des pays fondateurs, mais les Italiens étaient parmi les plus europhiles. Éric Joseph, je pense, le sait bien aussi par les sondages que dans les différents think tanks et journalistes qui s'occupent d'Europe, on en avait fait pendant longtemps des sondages qui donnaient les Italiens parmi ceux qui étaient plus attachés à l'Europe. Et puis ça, il y a eu un déclin inexorable qui a porté justement à des formes aussi politiques de contestation radicale jusqu'à Salvini. Et donc là, le fait que Draghi, qui est quand même un eurocrate, si on veut simplifier, après on a expliqué que c'est plus nuancé, mais c'est quand même son parcours, et qui prend le pouvoir avec ce gouvernement d'union nationale dans lequel il y a Matteo Salvini, qui était justement celui qui a porté plus on va dire la contestation anti-européenne. C'est intéressant, et ça joue, je pense, pour toute l'Europe, enfin pour voir si on est entré dans une phase post-populiste ou pas, si on regarde après l'élection de Biden, la défaite de Donald Trump, après d'autres signaux. Donc c'est un peu le point d'interrogation, et l'Italie pourrait confirmer ou pas la réponse. Et aussi, je pense par exemple pour la France, ce qui est très intéressant, c'est le parcours de Salvini face à Marine Le Pen, parce que Salvini, maintenant, même s'il a beaucoup d'ambiguïté, comme a rappelé Giuliano Empoli en disant que rien n'est irréversible, donc on ne sait pas si dans 6 mois, il va rechanger de casquette et reporter une bataille contre l'Europe ou attaquer d'une manière différente les actions européennes. Mais en tout cas, pour l'instant, il fait partie de ce gouvernement et c'est quelque chose qui pourrait aider, par exemple, la normalisation d'autres populistes ou de partis qui étaient anciennement anti-européens. Et je pense évidemment à Marine Le Pen, qui a commencé ce parcours de normalisation. On peut y croire ou ne pas croire, mais enfin, en tout cas, c'est son objectif. Et c'est vrai que ça joue. Et je pense que même, par exemple, pour quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui évidemment ne cache pas sa satisfaction de voir l'Italie avec ce nouvel gouvernement conduit par Mario Draghi, un gouvernement très européen et et avec lequel la France veut travailler, c'est sûr que je pense qu'en coulisses, il y a quand même une forme d'embarras à travailler avec un gouvernement qui, certes, est conduit par Mario Draghi, mais dans lequel un des actionnaires, entre guillemets, de majorité est Matteo Salvini, qui est quand même un des alliés principaux de Marine Le Pen en Europe.
Oui, c'est un peu comme si, au gouvernement de Jean Castex aujourd'hui, il y avait Marine Le Pen dans un poste ministériel important.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
L'Italie de Mario Draghi. Nous sommes avec Anaïs Ginori, correspondante en France du quotidien La Repubblica, avec Giuliano D'Ampoli, président du think tank, essayiste et écrivain. Son dernier livre, Les ingénieurs du chaos, chez Jean-Claude Lattès, et avec Éric Joseph, correspondant du quotidien Libération en Italie. Nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Beniamino Morante.
Bonjour Daniel.
À Rome, tout le monde a salué la nomination de Mario Draghi, enfin presque tout le monde. Dans ce concert de louanges, l'éditorialiste d'Il Fatto Quotidiano détonne.
Alors oui, tout à fait, Daniel, hein, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, bon, pour redonner un peu de contexte, en fait, la personne qui écrit cet édito, c'est Tommaso Montanari. Alors, Tommaso Montanari, ce n'est pas un journaliste, c'est un historien de l'art, mais qui est vraiment assez engagé à gauche. Et donc, ce qu'il fait dans cet article, c'est un peu, il réagit aux louanges qui ont accompagné l'arrivée de Draghi dans presque l'ensemble de la presse italienne, on peut dire. Lui, alors, il n'est pas du tout d'accord. Hein. Pour lui, Draghi, c'est non, parce que il représente vraiment, en fait, l'incarnation du libéral pur et dur. Alors, je cite l'article, là, pour donner un exemple. Il le définit comme un symbole de l'establishment international qui a gouverné le monde durant ces dernières décennies. Donc, une attaque assez dure. Et il ne fait pas que ça, parce qu'en fait, il appuie ses propos en rappelant le CV de Draghi, ce qu'il a fait avant la BCE surtout, parce qu'il a travaillé 10 ans au ministère du Trésor public en Italie, et le bilan, selon Montanari, il est vraiment catastrophique de cette expérience, parce qu'il parle de privation à tout va, de création de monopoles privés, de déficit budgétaire qui se creuse, un bilan catastrophique, ouais, vraiment. Et ce que cherche à faire Montanari, en fait, plus globalement, c'est qu'il tente de briser ce mythe qui s'est construit dans ces derniers mois dans la presse italienne d'un Draghi qui serait keynésien, qui serait prêt à impulser une phase d'expansion des dépenses. Alors, selon lui, pas du tout. Au contraire, en fait, il prévient de façon assez brutale, l'Italie doit se préparer à un bain de sang social. Et le pire, c'est que ce qu'il rappelle encore une fois, c'est que l'ancien président de la BCE, il n'a pas été élu à travers un vote des citoyens italiens, mais il a été nommé par le président de la République, Sergio Mattarella. Et c'est pour ça qu'en fait, en quelque sorte, il pourra faire ses politiques libérales sans même se soucier du consensus démocratique.
Merci, Beniamino Morante, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Un commentaire, Giuliano D'Ampoli, sur cet éditorial de Il Fatto Quotidiano, où il est un peu marginal.
Non, Il Fatto Quotidiano était un petit journal de bataille qui soutenait beaucoup l'expérience du gouvernement Conte, donc qui est contraire à sa défaite. Tommaso Montanari est un jeune historien de l'art très brillant, qui ne comprend pas très bien la politique, à mon avis. Il est plus brillant dans les questions d'histoire de l'art. Par rapport à ce qu'il dit, quand il dit que Draghi fait partie de l'establishment financier global, il a évidemment raison, difficile de lui donner tort là-dessus. Je pense que, par contre, Montanari a tort quand il dit que ce sera un bain de sang de l'orthodoxie monétariste, etc., parce que Draghi, premièrement, est un personnage quand même très pragmatique. Hein. Donc, ce n'est pas un idéologue, mais il a déjà démontré quand il était à la Banque Centrale Européenne qu'il pouvait briser les règles pour c'est son fameux whatever it takes pour la défense de l'euro.
Et donc, c'est là qu'il a acquis son surnom de Super Mario.
Exactement. Mmh. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment prend des décisions politiques et qui sort de l'orthodoxie. Et en plus, comme le rappelait Anaïs Ginori au début, il est là pour, en ce moment, pour d'une certaine façon distribuer de l'argent, pas pour une cure d'austérité. Donc franchement, je pense que l'analyse de Montanari n'est pas la bonne.
Alors en tout cas, on l'a déjà dit, l'arrivée de Mario Monti à la tête de l'Italie remet l'Italie sur le devant de la scène. Il a déclaré « Sans l'Italie, il n'y a pas d'Europe. Hors de l'Europe, il y a moins d'Italie. » Cela ça tombe bien puisque on l'a déjà évoqué, l'Italie va être le principal bénéficiaire du plan de relance européen, 750 milliards au total pour l'Italie. Alors moi j'avais dit 208 millions, mais je crois que c'est plutôt 209 que 208 millions. Bon. Alors un plan de relance qui doit être validé par la Commission européenne. Où en est-on en ce moment? C'est-à-dire que voilà, il y a une subvention, à peu près 40 milliards d'euros de subvention, et un prêt environ 128-129 milliards d'euros. On ne fait pas n'importe quoi avec cet argent qui va tomber de Bruxelles.
Non, et d'ailleurs, c'est la tâche à laquelle est en train de s'atteler le gouvernement et en particulier le Premier ministre en ce moment, parce que il doit pratiquement réécrire le plan qui avait été préparé, on dit quand même plutôt mal préparé par le gouvernement précédent. C'est d'ailleurs une des causes, ou peut-être même la cause principale de sa chute, hein, les contestations par rapport à la façon dont le plan de relance, le volet italien du plan de relance était en train de se préparer. Donc Draghi a décidé évidemment de revoir entièrement la copie, mais la copie, il faut la remettre déjà le 15 avril aux autorités de Bruxelles. Donc, on n'en sait pas grand-chose. C'est en train de se faire très rapidement. Peut-être Anaïs et Eric ont des informations en plus, mais disons, il n'y a pas énormément de débats. Draghi ne s'est pas encore beaucoup exprimé sur le sujet.
Ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, il doit y avoir un axe sur la lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'est commun à tous les pays. Tous les pays doivent financer des progrès, enfin des plans, des voilà, pour lutter contre le réchauffement climatique, et doivent aussi développer le numérique.
Le numérique, c'est deux axes. Il y a ces deux grands axes, et puis dans le cas de Draghi, je crois qu'il y a, étant un connaisseur profond de l'administration publique italienne, en effet, justement, on rappelait son expérience de 10 ans comme directeur général du ministère du Trésor, il se méfie de l'administration italienne.
Il la connaît bien.
Je pense qu'il a raison, parce que le vrai problème, c'est que l'Italie n'a jamais été capable de bien d'utiliser de façon vertueuse les ressources qui arrivaient de l'Europe. On a vu ça historiquement avec les fonds structurels pour le développement, par exemple, des régions du Sud, qui ont été malheureusement généralement mal gérées. Donc il va falloir trouver des systèmes et des mécanismes pour que ce problème-là ne se reproduise pas. Et ça, c'est très difficile, et c'est le vrai défi auquel est soumis, je pense, le gouvernement Draghi en ce moment.
Et Éric Joseph, l'un des défis de Mario Draghi, c'est de redonner de la crédibilité à l'Italie en Europe.
Oui, alors le personnage en lui-même apporte cette crédibilité, cette compétence, et c'est justement la force de Draghi, c'est de lancer le message que les fonds européens vont être bien utilisés, et notamment, je pense que outre la transformation digitale et la lutte contre le réchauffement climatique, l'un des points aussi qui va être mis sur la table en priorité à Rome, ça va être le développement du Sud, et notamment à travers les infrastructures. Mais effectivement, l'avantage de Mario Draghi, et notamment par rapport à ses prédécesseurs, et notamment par rapport à Mario Monti, comme le rappelait Anne Ginori, c'est le fait d'avoir cette enveloppe européenne qui devrait lui permettre aussi de faire passer des réformes, et notamment la réforme de l'administration.
Anne Ginori, Éric Joseph vient d'aborder un point important de l'histoire de l'Italie, cette coupure entre le Nord et le Sud. Éric Joseph vient nous expliquer que avec cet argent venu de l'Union européenne, eh bien, il va falloir essayer de développer le Sud, peut-être un peu plus que le Nord. Mais c'est une vieille lune des politiques italiennes. Ça fait des décennies et des décennies que on essaie de rattraper le Sud, qui est un petit peu, je dirais, sous-développé, entre guillemets, par rapport au Nord, et tous les gouvernements successifs italiens n'ont jamais réussi à faire rattraper le Sud et à le faire recoller à l'économie du Nord.
Oui, absolument, c'est un peu un marronnier, on pourrait dire.
C'est un défi formidable, oui. Parce que s'il réussit, personne n'a jamais réussi.
Voilà, exactement. En fait, c'est quelque chose de, qui est sur la table depuis des années et tous les gouvernements s'en emparent plus ou moins et ou le, sont indifférents plus ou moins, mais en tout cas, ça reste sur la table. Et c'est vrai que Mario Draghi, bon, il doit en quelque sorte démontrer que c'est possible, un peu en reprenant un slogan de Obama, qu'il peut faire ça. Et donc en fait, mais je pense que ça, c'est à beaucoup de niveaux. Donc c'est pour cette division territoriale qui est très forte et qui enclave complètement le Sud d'un point de vue économique, social, de tout point de vue. Et donc c'est un grand défi, on va voir. Mais en tout cas, il s'en est emparé et il doit démontrer, comme rappelait Giuliano D'Ampoli, que oui, c'est l'Italie est le premier bénéficiaire du plan de relance européen. Il va avoir ses 209 millions, mais il est capable de les dépenser. De les dépenser bien, parce que le problème, on vient de le rappeler, de l'Italie, c'était jusqu'à présent que quand les fonds européens arrivaient, les classiques fonds européens, l'Italie n'arrivait pas à les dépenser, notamment d'ailleurs souvent pour le Sud. Et je pense que c'est à tous les niveaux, vous parliez de crédibilité, en fait, vraiment, Mario Draghi doit en quelque sorte, il a quelques mois, parce que je pense que là, la lune de miel entre lui, les Italiens, et entre lui et l'Europe va durer quelques mois. Après, forcément, il y aura un retour au réel. Qui va arriver. Mais je pense que dans ces quelques mois, il doit vraiment lancer des signaux assez forts et nets s'il veut réussir. Et après, ce qu'il faut rappeler, c'est que aussi, ce que je joue en Italie compte beaucoup pour l'Europe, parce que je viens de le dire, l'Italie est le premier bénéficiaire de ce plan de relance européen qui est quand même le grand tournant des derniers mois et qui a autorisé, enfin brisé le tabou de la mise en commun de la dette, enfin tout ce que vos auditeurs savent en partie, enfin cet accord qu'il y a eu l'été. Donc c'est vraiment sur l'Italie qu'on va voir
si
ça marche ou pas. Mais aussi, je pense, on doit aussi se voir l'année où on va dire les 15 prochains mois, on va quand même vers une campagne électorale en Allemagne et une Europe post-Merkel dont on ne sait pas du tout ce que ça va ressembler. Enfin, l'Allemagne en particulier, qui sera le premier prochain chancelier, quelle coalition, mais qu'est-ce que ça va impacter sur l'Europe? On a également l'élection présidentielle en France. Macron, dans un peu plus d'un an, sera candidat, enfin, en tout cas, il y aura une élection pour s'il se représente, pour qu'il soit réélu. En tout cas, il y aura il pourra être défait ou il pourra y avoir un nouveau président, aux présidentes d'ailleurs. Et donc, du coup, le fait que l'Italie se stabilise, se renforce ou ne se renforce pas, c'est très important dans le jeu qui s'ouvre en ce moment en Europe, le jeu politique, le jeu des échéances électorales. Et Mario Draghi est en quelque sorte, pour l'instant, le plus solide. Après, comme je vous disais, on va voir dans les prochains mois, mais c'est vrai que Merkel est déjà dans la sortie. Macron, il va commencer dans quelques mois à être en campagne électorale. Et Draghi, il a quand même ce gouvernement national. Et surtout, il a, on n'en a pas parlé, l'idée qu'après ce gouvernement, il pourrait aller au Quirinal et à la présidence de la République. Donc, en fait, il y a une idée de continuité de cette figure qui a en quelque sorte pris le pouvoir, le contrôle, enfin, qui guide l'Italie dans cette crise.
Giuliano D'Ampoli, recoller le sud de l'Italie au nord de l'Italie, c'est possible ou c'est un rêve?
Écoutez, il faut être, je pense qu'il faut être quand même un peu réaliste aussi, parce que c'est vrai que l'Italie a un peu ce culte de l'homme providentiel qui arrive et qui règle
les... France, hein.
Un peu, oui, en effet, même si le système institutionnel est très différent et le nôtre n'est pas vraiment... Le vôtre est construit autour de ça. Le nôtre est construit pour éviter ça d'une certaine façon, mais il y a quand même ce phénomène qui se produit et là qui joue à fond sur Mario Draghi. Je dois dire, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, de façon probablement un peu plus justifiée qu'avant, c'est-à-dire que c'est vraiment Super Mario sous certains points de vue. Mais cela dit, le retard du sud de l'Italie par rapport au nord a des causes phrases qui ne sont même pas des décennies, c'est des siècles d'histoire divergentes avec des modes de gouvernance et des cultures politiques qui sont complètement différentes et qui se développent même à partir du Moyen-Âge de façon différente. Alors, ça ne doit pas nous pousser à être fatalistes. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites et d'ailleurs, on a des exemples, d'autres exemples européens, du coup, de régions arriérées qui ont pu, grâce à l'Europe aussi, récupérer une bonne partie de leur retard et même plus. Mais dans le cas de l'Italie du Sud, ce qui serait bien, ce serait déjà qu'on invertisse la courbe, c'est-à-dire que au lieu de continuer à avoir une fracture qui devient de plus en plus béante, qu'on arrive un tout petit peu à invertir la courbe. L'autre chose à dire peut-être quand même par rapport au sud de l'Italie, c'est que l'Italie est quand même un endroit extraordinairement polycentré. Non, donc il y a plusieurs suds. Il y a des régions qui en effet répondent un peu au cliché du sud de l'Italie arriéré, comme la Calabre par exemple ou d'autres. Et il y en a d'autres à côté, comme les Pouilles, qui ont des éléments de dynamisme tout à fait extraordinaires, notamment dans le secteur des start-up, même technologiques ou des petites et moyennes entreprises. Donc, encore une fois, là, on parle en Italie de temps en temps de sud à macchia di leopardo, donc à tache de léopard. C'est quand même une réalité qui a de très grandes différences d'un endroit à l'autre.
Alors, Eric Joseph, avec cette pandémie, le risque, c'est aussi que les économies du nord de l'Europe se remettent à flot plus rapidement que celles du sud de l'Europe. Est-ce que c'est un débat? Est-ce qu'on en est conscient en Italie? Évidemment, on compte beaucoup sur ce plan pour rattraper le retard. Mais est-ce que c'est un débat en Italie, ce risque de décrochage des économies du sud? Alors, c'est vrai pour l'Italie, l'Espagne, le Portugal et aussi la France par rapport aux économies du Nord et évidemment par rapport aux autres économies comme celle des États-Unis par exemple.
Alors ce débat cette question est assez récurrente, mais je dois dire qu'en cette période en Italie la vraie crainte et en même temps le vrai défi, c'est de ne pas décrocher par rapport à d'autres pays sur le plan vaccinal. Vraiment l'obsession, et notamment c'est l'obsession aussi de Mario Draghi, c'est de faire en sorte que l'Italie réussisse à vacciner massivement les citoyens dans quelques semaines. L'objectif, c'est de vacciner 500 000 personnes par jour. On n'y est pas encore. On est passé d'environ 70 000 vaccins par jour au début, mi-janvier. Là, on s'approche des 200, 250 000 par jour. Donc, il y a vraiment le sentiment, mais je pense que c'est pas seulement italien, c'est que il se joue une partie essentielle parce qu'effectivement, plus vite on va vacciner, plus vite on va pouvoir faire repartir les économies.
Anaïs Genery, vous allez devoir nous quitter dans quelques minutes, mais c'est le vrai enjeu, la vaccination, pour en gros réussir la campagne vaccinale, réussir à surmonter la crise sanitaire pour relancer l'économie, remettre l'économie italienne sur le devant de la scène, en tout cas à bon port.
Oui, bien sûr. De toute manière, le gouvernement Draghi est né avec ses deux missions dont on a parlé, c'est le plan mettre en œuvre le plan de relance lié au fonds européen et faire la campagne de vaccination et disons aller vers la sortie de la crise sanitaire. Donc c'est vraiment deux gros défis. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment Draghi a fait les premiers gestes, même par rapport à l'Europe, à tout ce qu'on vient de dire sur le fait que quand même c'est quelqu'un de proche de l'Europe, un Européen convaincu qui a beaucoup fait pour l'Europe. Mais par exemple, il a C'est lui qui a émis des critiques assez fortes de ce qu'on sait au sein du Conseil européen, sur un des premiers qui a émis des critiques assez fortes sur l'export des vaccins, par exemple. Maintenant, on a vu que l'Europe a exporté énormément de vaccins, entre autres AstraZeneca, mais pas seulement, et alors qu'elle était en manque de vaccins pour ses propres citoyens. Et Draghi, déjà, en fait, à son premier Conseil européen, donc avec les autres chefs d'État et de gouvernement, c'est le premier qui a dit est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause à faire à ce niveau, et c'est le premier qui a d'ailleurs bloqué un lot de vaccins AstraZeneca qui était en Italie dans une usine près de Rome.
Et qui devait partir en Australie, c'est ça, 250 000 doses.
Exactement, avec justement cette motivation, nous on est en pénurie de vaccins, l'Australie n'est pas un pays, enfin c'était ça la raison officielle, l'Australie n'a pas plus besoin que nous, et donc voilà, on garde pour nous les vaccins. Et en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que il est, comme disait Julien Lampel, c'est quelqu'un de très pragmatique. Il va jamais vouloir passer pour un euro-BA qui fait passer tout. Et d'ailleurs, après, il a redit aussi dans une conférence de presse, je pense la première, une des rares qu'il a faite, parce qu'il parle très peu, comme a rappelé Eric Joseph. Il a dit, on cherchera toujours la coordination européenne. Donc, il parlait des vaccins, mais je pense que c'est un discours général. On cherchera toujours à se coordonner avec les autres gouvernements européens et à chercher une coordination européenne avec la Commission. Mais si on n'arrive pas, on ira tout seul. Il disait ça à propos des vaccins. Mais je pense que c'est vraiment... Voilà, il veut, dans son parcours de récrédibiliser l'Italie, voilà, il ne veut pas non plus s'aligner complètement sur Bruxelles, sur les autres capitales, que ce soit à Paris et l'Allemagne. Et d'ailleurs, dès qu'il avait été nommé, on disait qu'il allait venir assez rapidement ou qu'il allait rencontrer assez rapidement Emmanuel Macron, Angela Merkel. Ça ne s'est pas fait, mais je pense aussi parce qu'il veut garder aussi une espèce de prudence par rapport à son image, par rapport à l'image de l'Italie. Il ne veut pas tout de suite se marier immédiatement avec un Macron ou Angela Merkel. Donc, je pense qu'il faut aussi voir... Ça va être un personnage beaucoup plus complexe de ce qu'on imagine, même dans son attitude vis-à-vis de l'Europe.
Merci, Anne-Marie Ginori. Juliane Dampoli, est-ce que Mario Draghi aura le pouvoir de réconcilier les Italiens avec l'Europe? On sait que les Italiens, Anne-Marie Ginori le rappelait, ont été historiquement très pro-européens, mais ils ont été un peu déçus par les Européens lors de la crise de l'euro, où, c'est le thème des pays, les fameux pays du Club Med, ce qui était une forme d'humiliation quand même pour les Italiens. Lorsqu'il y a eu le début de la première vague, les Italiens ont eu le sentiment d'être un peu abandonnés par l'Europe, qui était elle-même prise un peu de panique, même si ça a évidemment changé dans un deuxième temps, notamment avec ce plan de relance qui sera évidemment très bénéficiaire pour l'Italie. Est-ce que ce sentiment européen des Italiens, est-ce qu'il a évolué? Ils étaient très pro-européens, ils ont douté de l'Europe, est-ce qu'ils ont de nouveau confiance en l'Europe? Et je poserai évidemment aussi cette question à Eric Joseph.
Je crois que malheureusement, d'une certaine façon, l'européisme des Italiens que vous avez évoqué, qui était bien réel, était à l'origine un européisme sentimental, affectif, sincère. On croyait en ce projet, on avait envie que l'Italie soit partie prenante de ce projet, et ça a été vrai pendant des décennies, très très longtemps. Après, il y a eu au cours des probablement surtout de la dernière décennie, pour toute une série de raisons sur lesquelles on ne reviendra pas, une désaffection réelle très forte des Italiens par rapport à l'Europe, et je crains que aujourd'hui ils n'y reviennent que de façon un peu opportuniste, c'est-à-dire elle est liée à l'argent de ce plan de relance. En même temps, c'est une grande chance quand même pour imaginer de pouvoir re-ancrer et de faire re-entrer de façon profonde le sentiment européen là où il a perdu du terrain, parce qu'il y a quand même encore énormément d'Italiens qui restent liés à l'idée de l'Europe. Mais c'est vrai que c'est un sentiment qui a beaucoup souffert au cours de la dernière décennie. Pour faire ça, moi, ma conviction personnelle, je crois que on en discute de temps en temps avec Eric Joseph, qui fait beaucoup ça avec son organisation dont il parlait, Europa Now, dont il parlait au début. L'argent et les slides en PowerPoint, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus personnel, de plus affectif, de plus émotionnel. Ce qui a choqué les Italiens au premier moment de l'explosion de la pandémie, c'était surtout, je crois, l'incapacité de la part des autorités européennes et des autres, il faut bien le dire, et des autres chefs d'État européens, non pas de faire concrètement quelque chose pour l'Italie, parce qu'on ne pouvait pas faire grand-chose, c'était le début, il n'y avait pas...
Oui.
Mais l'incapacité même de produire des symboles forts de solidarité. Alors, paradoxalement, justement, l'arrivée de l'avion russe, d'ailleurs une manipulation évidente, disons, le seul leader européen qui a fait un geste fort, symbolique pour l'Italie au moment de la première explosion de la pandémie, ça a été le premier ministre ou le président albanais, et lui il est apparu en face des caméras, en face d'un avion d'infirmiers et de médecins, en disant: nous, l'Albanie, on vous aime et on vous envoie cet avion avec. Et c'était pas la dimension de la chose, mais c'était le symbole et trouver les paroles. Et ça, souvent, ça manque à la relation entre l'Europe et l'Italie.
Alors justement, Eric Joseph, est-ce que ce symbole de l'Europe, Mario Draghi, peut-être le devenir pour, non pas les Italiens, mais peut-être tous les Européens? Ce qui, évidemment, redonnerait peut-être confiance aux Italiens dans l'Europe.
Écoutez, je l'espère, mais je pense qu'il y a un point là, on est un point central de la question du projet européen. Il est incontestable que Mario Draghi est un Européen et est un grand Européen. Mais il a une vision de l'Europe qui est une vision, je dirais presque utilitariste, dans le sens où l'idée, c'est de dire: on met ensemble des politiques, des compétences que les États nationaux européens ne peuvent plus assumer seuls. Et que, ensemble, nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts, notamment du point de vue monétaire. Nous devrions être plus forts du point de vue des vaccins. Nous devrions être plus forts du point de vue économique. Et donc, il appelle notamment une union fiscale, une union budgétaire. Mais c'est toujours un petit peu dans un sens d'une utilité, d'une convenance, d'un avantage. On fait l'Europe. On met ensemble parce que les pays individuellement ne sont plus capables, dans un monde globalisé, d'assurer certaines politiques. Et donc il refuse en quelque sorte une idée d'une perspective un petit peu presque politique, idéologique de l'Europe. C'est-à-dire qu'on fait l'Europe parce qu'on a des valeurs en commun, parce qu'on a vraiment un projet de civilisation, de respect des droits des minorités, de respect des droits des individus, de l'égalité des droits et des devoirs des citoyens. Et donc je dis ça, ça paraît peut-être très abstrait, mais par exemple il y a un élément qui a été noté par certains observateurs, c'est que lorsque Mario Draghi parle de l'Europe, par exemple, il n'a pas abordé la question d'une Europe souveraine du point de vue militaire et de la défense. Il a remis l'Italie dans une position plus classique, plus traditionnelle, d'une Europe atlantiste. Et donc c'est intéressant parce que ça pose un vrai problème sur cette idée de faire l'Europe selon la convenance et du point de vue pragmatique. Parce qu'on voit bien que pour certains pays, il y a certaines politiques qui sont avantageuses et d'autres qui ne le sont pas. Et je pense notamment à la Pologne, par exemple. La Pologne, elle considère que faire l'Europe économique, faire un espace économique, un marché commun, ça représente un avantage. En revanche, faire l'Europe de la politique migratoire, elle considère que ça ne l'est pas. De la même manière, l'Angleterre, à un moment, elle a considéré que son adhésion avec l'Europe était un avantage, et quand elle a considéré que ça ne l'était plus, eh bien, elle s'est retirée à travers le Brexit. Et donc, je pense que on est là au centre de la question, de savoir de quelle Europe parle-t-on, de quel projet européen parle-t-on et quelle narration pour l'Europe?
Alors justement, est-ce que l'Italie aidera les Européens à se situer dans le reste du monde, de ce vaste monde qui lui est quand même souvent hostile? Eh ben, on fera une autre émission, peut-être dans un an, pour savoir un petit peu les premiers bilans de la présidence du Conseil de Mario Draghi. Anaïs Ginori, Éric Joseph et Giuliano D'Ampoli, merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Muni avec Benjamin Morand de Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités et les liens qui les concernent. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, le site RFI.fr, rubrique podcast ou rubrique balado-diffusion, comme on dit au Québec, j'aime bien ces expressions. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de l'émission via votre plateforme préférée, et par exemple Google, Apple ou Deezer. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescales, que vous soyez à Rome, Milan, Florence, Venise, Naples, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Géopolitique, le débat.
La pandémie crée une nouvelle dynamique.